Donc j'ai le très grand plaisir de présenter Michel Pedinelli, auteur de 3 romans aux éditions de l'Aube. Et ça me fait plaisir vraiment, pour une fois, de ne pas te présenter, parce qu'on ne va pas chiquer, on ne va pas se vous voyez, autour de l'humour. Parce que humour, Michel Pedinelli, certes, ses romans sont drôles, mais c'est beaucoup plus profond. Et j'ai aussi le très grand plaisir de présenter Pascal Dessens. Je me suis arrêtée à 29-30 romans. On en reparle. 30 ouvrages. Et donc, d'habitude, c'est du noir dans le vert, le roman écolo et tout. Et là, thème qui me semble le thème le plus euphémisme du roman noir, du roman social, réhumaniser le monde. Donc, il me semble que l'un et l'autre, c'est votre credo, si je peux dire, si on peut avoir ce mot est un peu à une connotation un peu particulière, mais il me semble que le roman noir, encore une fois roman social, c'est le roman qui s'intéresse à l'être humain et peut-être qui recentre le débat par rapport aux marges. J'aimerais votre avis à tous les deux.
Comme ça, après le déjeuner. Ah ouais. Vas-y, Michel.
Toi l'honneur. Je t'en prie. 30 ouvrages.
Je sais pas, Rémi. L'argument, le slogan un petit peu réhumaniser le monde. Oui. Mais je sais pas si on en est capable au point où on en est aujourd'hui. Voilà. Après, ça touche à ce qui fait, à mon avis, le sens et la valeur du roman noir. C'est que ça s'intéresse à l'humain, ça s'intéresse aux failles, aux douleurs de l'humain. C'est tout ce qui fait le roman noir. Je pense pas que le roman noir est une ambition, voilà, ça se joue pas sur un slogan, une intention, même humaniste, de refaire l'humain, l'humanité. C'est l'intitulé de la conférence est piégeante, on va dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que une des qualités du roman noir est de s'intéresser aux humains de peu, aux humains douloureux, aux humains fracassés, ceux que j'appelle les cabossés, et qui sont les personnages principaux de toutes mes histoires. Voilà. Alors, si c'est ça, réhumaniser le monde, peut-être que j'ai cette intention secrète de réhumaniser le monde. En tout cas, j'ai pas envie que le monde se joue sans ce regard sur des gens qui n'ont pas toutes les chances émotionnelles, culturelles, sociales. Voilà, je me trouve à cet endroit-là. Mais moi, j'ai pas de slogan dans mon écriture. Vous voyez, je suis un témoin, donc l'intitulé de la conférence me gêne un petit peu comme ça. Voilà.
C'est pour ça qu'on essaye de la détourner. Et d'arriver justement à vos romans, donc pareil.
Oui, c'est vrai que ce que dit Pascal, c'est vraiment ça, c'est que on a des, enfin dans le noir, on s'intéresse aux gens qui sont bousculés, ballottés dans la vie, cabossés dans la vie, dans la société, dans les gens à la marge, parce que finalement la marge c'est toujours plus intéressant que le troupeau, enfin à mon avis. Et surtout, et c'est vrai que par exemple, je, pour moi, le roman noir, c'est pas question de procédures policières ou d'enquête ou de techniques d'enquête ou de choses comme ça, mais bien effectivement ça, quoi, s'intéresser aux gens de peu. Ouais, j'aime bien ce terme, les gens de peu, parce que c'est le cœur de, ouais, c'est le cœur de ce qu'on peut raconter. C'est eux qui sont intéressants, c'est les gens qu'on oublie en général ou qu'on bouscule ou qu'on piétine. Et alors c'est vrai qu'on est un peu, moi des fois on se sent un peu démiurge quand on écrit, on se dit bah je vais t'aider, déjà je vais parler de toi, puis je vais t'aider, et puis on va trouver quelque chose, et puis on va faire avancer, puis même on va peut-être changer le monde à travers un roman.
Humaniser les hommes était ambitieux, changer le monde.
Oui, mais tu nous connais, les auteurs de polar, c'est toujours très ambitieux.
Alors, les gens de peu, moi je dirais les vrais gens. Les vrais gens, parce que, et justement, ça tombe bien, Pascal Dessin, 30 ouvrages, et le dernier, un colosse. Un magnifique, magnifique alors, ouvrage, parce que pas roman, pas biographie, pas essai, mais vous nous parlez d'une vraie personne. Alors, on a l'habitude, par rapport à vos précédents romans, alors moi je suis désolée, je suis égoïste, je cite ce que j'aime le mieux, Le raisin qui nous manque, très beau portrait d'être humain. Maintenant, Le mal est fait. Alors, il y en a un qui s'appelle bizarrement Loin des humains, petite merveille. Et puis, je voudrais vous conseiller ça. Voilà, La trace du héron, parce que non seulement c'est un texte magnifique, mais c'est un travail éditorial de très grande qualité. Donc ça, vous ne le trouvez pas partout chez vos libraires, donc il faut les réclamer. Voilà, donc ça, c'est très important. Ça, c'est encore différent. C'est plus des réflexions sur ce qui nous entoure et ce qui malheureusement risque de ne plus vous entourer. Et donc, d'habitude, roman noir contemporain. Et là, Jean-Pierre Mazas, un homme qui a vraiment existé, au milieu du 19e siècle. Comment vous êtes intéressé, comment tu t'es intéressé à cet homme? Quelle est la genèse, en quelque sorte, de cette envie?
Alors, je vais raccrocher les wagons avec ce qui vient d'être dit. Tout récemment, j'ai eu les honneurs d'une émission de télé, un reportage sur le bouquin, et j'ai bien aimé un commentaire de la journaliste disant que, et le mot je l'ai déjà prononcé, mais maintenant ça va devenir mon leitmotiv, c'est qu'elle faisait remarquer à la fin du sujet que je m'étais intéressé toujours, et c'était le sujet de mes livres, au cabossé de ce monde. Voilà. Et il n'y a pas plus cabossé que le personnage que je viens de mettre en scène dans Un colosse. Parce que comme aujourd'hui, hier, il y avait des gens qui n'avaient pas toutes les chances dans la vie, à commencer par leur corps, qui n'était pas un cadeau, parce que c'est un homme qui a été ce qu'on appelle un géant, qui a souffert d'une croissance spectaculaire à l'adolescence, et donc il a mesuré 2,20 m, il a bien fallu faire avec son corps, et donc il a eu un destin complètement lié à sa morphologie, à sa biologie, et c'est un peu le propre de nous tous, hein. C'est qu'à un moment donné, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein. C'est dans la chanson de Léo Ferré, 20 ans, vous savez, quand on a sa gueule, etc. Bon. Et lui, c'est ça, mais alors puissance, voilà. Et lui, il a cumulé ce personnage vrai, un réel, dont je savais assez peu de choses avant d'écrire l'histoire, il a cumulé les handicaps, c'est-à-dire qu'il était un paysan. Alors le 19e siècle, vous allez me dire, la société française, c'était facilement 60% de paysans dans ce pays, même si on est à l'ère industrielle, c'est pas non plus la majorité des gens qui vont à l'usine, surtout les gens travaillent la terre. Donc il est paysan, il souffre d'un handicap puissant, et qu'est-ce que tu fais avec ça? Voilà, comment on va avancer dans sa vie? Je ne pense pas qu'il ait beaucoup réfléchi à ça, parce que c'était quelqu'un qui, à mon avis, était simple. Ce n'est pas péjoratif, hein, de ma part. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas philosophe. Il devait être un peu poète, il devait être un peu romantique, mais c'était quelqu'un de très simple et qui faisait comme il pouvait avec ce qu'il avait. C'est finalement le propre de chacun d'entre nous, si on n'a pas certaines ambitions dans nos métiers. Et voilà, donc je ne sais pas quelle est la question réellement, mais... voilà, mais pourquoi je me suis intéressé à ce personnage? Parce que c'est, et je perds pas le fil, hein. Parce que ça nous parle de nous-mêmes, de nous tous. On est tous à un moment donné dans nos vies à se demander, selon notre sexe, selon notre origine sociale, selon notre culture, selon etc. etc. Ce que l'on est. On se pose tous cette question et c'est très compliqué d'y répondre. On ne sait pas. Moi, je ne sais toujours pas si je suis un écrivain, si je sais que je suis un garçon de cette époque. Mais plus ça va, plus les interactions sont compliquées au niveau de mon espace le plus proche et au niveau de la planète, moins véritablement je sais ce que je suis. En tout cas, j'arrive de moins en moins à me projeter dans ma vie. Parce que tout d'un coup, moi, je... je vais faire une petite digression, mais qui est une forme de métaphore. Quand j'étais gosse, le projet d'aller sur Mars était un rêve d'écrivain d'anticipation, etc. Aujourd'hui, on nous dit qu'on demain, de mon vivant, je vais peut-être voir un humain sur Mars. Et moi, là-dedans, je suis perdu. Voilà. Et ça, le Colosse est un peu ça dans son époque, c'est-à-dire que pourquoi je me suis intéressé à ce personnage, je m'y suis intéressé sans doute parce que j'ai senti que c'était quelqu'un qui pouvait me donner des réponses à des questions quasi métaphysiques. Voilà. Au 19e, comment pouvait-on être hors norme, paysan, et voir s'élever la tour Eiffel, voir des trains rugir partout en France, voir l'électricité arriver, voir, voilà. Et je trouve que c'est assez proche de ce que nous vivons aujourd'hui, mais par rapport à des tas de sujets.
Donc justement, plein d'interrogations, j'arrive pas avec le micro, on va s'en débrouiller. Hein. Plein d'interrogations, c'est pour ça que le début du deuxième chapitre, c'est une question. Et justement, ça quand même colle bien au thème. Un homme, virgule, d'abord, point d'interrogation. Non ? Si ? Ah,
T'as pas appris ton livre par cœur, Pascal ?
Oh, celui-là, je connais par cœur, peut-être. Alors, je vais te faire mentir, ma chérie. Un homme d'abord.
Ah, il n'y a pas le point d'interrogation. Mais il y a un homme d'abord, mais je suis désolée, il n'y a pas le point d'interrogation. Mais on sent quand même l'interrogation. C'est-à-dire que, en fait, tu as commencé l'enquête, mais l'idée, c'est que donc celui qu'on a appelé, tu ne l'as pas encore dit, le géant de Montastruc, parce que tu as parlé de handicap, mais moi qui suis généticienne, je suis désolée, faire 2,20 m, c'est pas forcément au départ un handicap, sauf qu'il va être considéré, c'est une des grandes interrogations du bouquin, on en reviendra, mais voilà, tu as eu l'envie de parler juste d'un homme normal, un homme d'abord.
Oui, parce qu'un homme n'est pas constitué par sa taille, par son poids, par sa couleur de peau. Moi, je pense qu'un homme m'intéresse parce qu'il est constitué par une émotion. Donc, un homme d'abord, c'est-à-dire que avant de voir un géant dans un champ avec son cheval et la facilité qu'il en a, puisqu'il est plus fort que tout le monde. Moi, je vois un homme qui est, dans son époque, quelqu'un qui me ressemble. Il fait 2,20 m, mais voilà. Moi, dès que je vois quelqu'un en face de moi, c'est quelqu'un qui me ressemble. On est de la même espèce. Voilà. Ce qui va nous distinguer, c'est peut-être la culture, l'origine sociale. Et encore, ça dépendra. Il y a des niveaux plus ou moins détestables, on va dire, qui créent le rejet. Mais globalement, la plupart des gens, on se ressemble, on est là, une même espèce. On est des primates, on est d'abord des primates, et puis après, on est des humains occidentalisés, occidentaux, enfin, je ne sais pas comment on peut se définir, on fait partie de cette espèce-là. Voilà, donc c'est un homme d'abord, il fait 2,20 m, mais c'est un homme d'abord. Alors après, pour compléter l'analyse que tu viens d'avoir, il est devenu grand, ça serait pas gênant aujourd'hui, ça serait Tony Parker, il serait basketteur à Dallas, il fait pas 2,20 m Tony Parker, mais pas loin je pense, il doit faire 2,15 m, non mais je veux dire, il serait basketteur, en gros, bon, à l'époque 2,20 m, au milieu du 19e, c'est vraiment très grand. Parce que les gens sont petits, biologiquement, c'est l'époque qui veut ça. Je pense qu'à la campagne, on est à 1,60 m, 1,70 m, par là. Voilà. Donc il est grand. En plus d'être victime de son gigantisme, et ce qu'a révélé l'histoire, mais on ne va pas raconter tout le livre, on va inviter notre public à le découvrir, c'est qu'il était victime d'une maladie inconnu à l'époque, ou très peu connu, en tout cas, on en était au début de l'étude, c'est l'acromégalie. L'acromégalie qui est un désordre hormonal, notamment de l'hypophyse, qui fait notamment qu'on a les extrémités très, très déformées, très puissantes. Bon, il y a toutes des symptômes dont je fais une sorte de liste dans le livre. Donc c'était quand même quelqu'un qui était malade. C'était quelqu'un qui était vraiment handicapé. Alors, j'ai pas fait les. Il faudrait retourner à l'origine des mots. Je n'emploie jamais le mot d'handicap ou d'handicapé dans le livre parce que j'ai voulu garder une tonalité romantique et poétique. Mais après coup, quand je parle du livre maintenant. Quand on m'interroge sur ce bouquin, je parle d'handicap, mais je ne sais pas si le mot existait au XIXe siècle. Je ne sais pas.
Alors, le mot handicap existait. Par contre, le mot colosse est arrivé. Voilà, c'est assez intéressant, d'ailleurs. Un homme d'abord, Dieu, magnifique bout d'homme. Une boule d'empathie, de rage, de colère. Voilà, Dieu, on la connaît depuis le premier roman, puisque c'est son nom de famille et le titre du premier roman, Boccanera, puis on la retrouve dans Après les chiens, et puis on vient de la retrouver cette année avec grand plaisir dans La patience de l'immortel. Donc, si tu devais présenter Dieu Boccanera, à ces gens-là, voilà, je crois que c'est une amie proche, presque une alter ego, comment on la présenterait ?
Alors oui, effectivement, c'est un bout d'humain, qui est donc une femme, qui est détective privée. Et j'ai choisi un personnage de détective privé parce que dans la littérature française, il y a peu de femmes détectives privées. On a pas mal de gendarmes ou de policières. Mais pour mener une enquête, je m'étais dit que détective privée, c'est pas mal, d'autant plus qu'on n'a pas d'hiérarchie. Parce qu'elle supporte très mal la hiérarchie. Elle se crée ses propres procédures, elle n'en suit pas, enfin, elle les crée au fur et à mesure. Et donc ça, c'est sa fonction sociale. Effectivement, en plus, donc, son prénom, c'est Giulia Boccanera. Giulia, avec un espèce de dieu qui est un peu mouillé, qui est alors on appelle ça un shibboleth. C'est une phrase ou une expression ou un mot qui n'est prononçable que par la communauté. Hein, qui l'a créé, en l'occurrence les Corses, donc d'ailleurs je le prononce assez mal. Donc du coup, son surnom c'est Dieu, pour aller plus vite. Et du coup, bon, moi ça me permet de faire des jeux de mots avec le nom de Dieu, par exemple. Mais effectivement, elle est quand même avant tout humaine, elle n'est pas tellement divine, hein, faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est une détective privée, effectivement assez empathique. On partage plein de choses. On partage certainement des colères, des rages, des indignations. Et finalement, je pense que c'est l'exutoire de mes colères face à des situations sociales ou politiques ou géopolitiques qui me sont insupportables. Je me suis dit, bah, finalement, écrire un roman et pour en parler, c'était plus constructif qu'écrire un tract politique, je pense. Puis moins chiant d'ailleurs.
Je rappelle, je n'ai pas voulu faire vos panégyriques et vos biographies, mais voilà, vous êtes journaliste aussi, et donc tu aurais pu aussi écrire des articles plein de.
Oui, ce que j'ai sûrement fait, mais là, pour le coup, c'est parce que toutes les histoires sont un peu des choses que j'ai vécues d'une manière ou d'une autre. La première, c'est simplement dans la ville de Nice, donc qui est ma ville, le fait que cette ville a été éventrée pendant de longues années. Pour construire un tramway, et chez nous, quand on construit un tramway, on construit pas simplement un tramway, on construit un métro. Donc pendant 3-4 ans, on a creusé un souterrain dans Nice, dans un sous-sol en plus qui est particulièrement instable. Donc c'est un espèce de projet pharaonique qui nous a pourri la vie et qui a coûté un pognon de dingue, comme dirait l'autre.
Et des vies d'êtres humains.
Et en plus, même si on considère juste le fait de dire, je sais pas, on va s'enfouir, on est à Nice, c'est quand même une ville qui est plutôt pas mal, quoi. On pourrait circuler en surface, ça serait très joli. Non, là, il a fallu l'enfouir.
Enfin, bref, depuis Jean-Médecin, il y a longtemps qu'il n'y
a plus tellement
grand
logique.
Il n'y a plus grand monde qui circule en surface. Hein, mais bon.
Donc du coup, voilà, la première, c'était une espèce d'indignation là-dessus, sur cette situation, puis sur la spéculation, sur ce genre de choses. Et le deuxième, après les chiens, c'était effectivement de voir, parce que j'y étais mêlée volontairement, mais pas toute seule, avec des associations, donc de voir tous les migrants qui arrivaient de Vintimille, hein, qui arrivent du Soudan, d'Érythrée, de Syrie, de Libye, qui arrivent, qui traversent la frontière franco-italienne, donc dans la vallée de la Roya, et Et ces gens qu'il faut... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand ces gens arrivent? Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on les dénonce? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un peu la question que j'ai voulu poser avec le deuxième, parce que la question s'est posée à moi. Bon, ma réponse a été assez simple, hein. Mais elle n'est pas simple pour tout le monde. Donc voilà, et l'humanité... Et en fait, je ne sais pas si c'était quoi, réenchanter l'humanité ou réhumaniser le...
Non, mais on n'est plus au thème, on est simplement au fait de
présenter. Non, du coup, voilà, la question, elle est terrible. Quand on a des êtres humains qui arrivent dans une souffrance extrême, parce que quand on traverse une frontière, quand on fait ce genre de voyage, c'est pas pour venir nous piquer les allocations, hein, très clairement, c'est vraiment une souffrance, et qu'on soit pourchassé, enfin, c'est une guerre ou une famine ou une dictature, enfin, c'est des. On a des humains comme ça qui viennent taper à notre porte, puis même s'ils tapent pas à la porte, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez entendu parler de Cédric Héroux, par exemple, dans la vallée de la Roya. Et ce qui est super intéressant avec ce qui s'est passé avec Cédric, c'est que tout simplement, son champ est entre la France et l'Italie. Enfin, son champ est sur les deux. On s'en fout parce que les frontières, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement théorique. Et donc, il a vu arriver une personne, et puis deux, et puis trois sur son champ, des gens qui arrivaient en loc, en tong, dans la montagne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il les a accueillis, il leur a donné à manger, il leur a donné... sur son champ, une tente. Il avait un chauffe-eau de 20 litres, hein, pas plus. Et en tout, il a accueilli 2000 personnes qui sont passées parce que simplement, il était sur ce chemin de passage. Et lui, son truc, c'était de dire, je vais aider. Je ne peux pas vivre dans un monde dans lequel je n'aiderai pas mes frères humains. Et ce qui est alors juste pour poursuivre, ce qui est fort, c'est outre cette action-là, qui est une action de fraternité, de solidarité immédiate, concrète, d'urgence et absolument indispensable, c'est que du coup, il a fait changer la loi sur le délit de solidarité. Avec toutes les, enfin, je veux dire, il a été traîné au tribunal, je ne sais combien de fois, il a gagné à chaque fois, que ce soit et du coup la loi a changé grâce à cette action-là. C'est-à-dire que c'est pas juste je tends la main et je t'aide, c'est avec son obstination, lui et les aidants tous les gens qui étaient dans la Roya. Hein, il est symbolique, mais enfin il y a quand même la moitié de la vallée qui a fait ce travail-là, avec cette obstination simple de dire j'aide. Je ne me pose pas de questions, j'aide, parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est le seul réflexe d'être humain. Ça a permis de changer notre loi au niveau national. Donc, je voulais parler de ça.
Puis, il y a le troisième, quand même. Donc, dans le troisième, qui est celui qui vient de sortir, La patience de l'immortel, donc Diu, je prononce bien, ça va?
Jusque-là, ça va.
Elle part en Corse. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi elle part en Corse. Et je voudrais juste citer... Donc, ça coûte de l'argent. L'aller te coûte un rein. Et le second, c'est pour négocier le voyage retour. Mais elle part quand même en Corse. Donc, pourquoi elle part en Corse?
Alors, elle part en Corse parce que, une jeune femme a été assassinée. Cette jeune femme se trouve être la nièce de son ancien compagnon. Donc, c'est une jeune femme qui a été un jour un bébé qu'elle a tenu dans ses bras. Donc, ce n'est pas juste une enquête. C'est vraiment une tragédie pour elle qui commence. Et donc, son compagnon, qui se méfie un peu de la guéguerre entre police et gendarmerie sur un territoire comme la Corse, lui demande d'aller enquêter sur place pour savoir ce qui se passe. Et moi, j'ai choisi la Corse parce que donc c'est la seconde moitié de mes origines, puisque la première, c'est l'Italie et la vallée de la Roya, que j'avais finalement traité dans les deux premiers. Et c'était intéressant d'aller voir en Corse quand on a délaissé un peu cette terre et cette île. Du coup, Diu se retrouve avec pas tous les codes, avec des souvenirs qui sont flous, qui sont peut-être trompeurs, parce que les gens ont changé, la terre a changé, et qu'elle doit quand même, malgré tout, trouver une vérité dans ce meurtre.
Trouver une vérité, c'est un petit peu aussi... ce qui a été le moteur. Et là, j'ai ouvert le livre pour que tu ne puisses pas me contredire, pour citer. On a un peu donc maintenant évoqué les deux débuts de roman. On va aller un petit peu plus loin. Au début du troisième chapitre, Pascal Dessin, tu dis « Au commencement, nous ignorons presque tout de l'homme. nous savons qu'il a existé. Et ce qui est remarquable dans ce roman, c'est que non seulement vous nous attachez à comprendre cet homme, mais au fur et à mesure de l'enquête, de la quête en fait, plus que de l'enquête, tu arrives à nous faire transparaître les sentiments qui arrivent au fur et à mesure que tu découvres l'être humain. Et tu arrives à l'écrire. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce travail. C'est... Non, je dis des bêtises.
Non. Bah, y a pas de bêtises, là. C'est compliqué, parce que on ne peut pas écrire un personnage dont on sait si peu sans s'investir beaucoup soi-même. Il a fallu que j'aille très profondément en moi, chercher chez mes aïeux, qui est... Parce que moi, au départ, ma rencontre avec le colosse, alors je ne suis pas un colosse, moi je ne suis pas grand, je ne suis pas un géant, mais je sais ce que c'est de vagabonder, ce qu'il a fait. Et j'ai su très vite que ça avait été un vagabond. Alors je n'ai pas été lutteur, mais je suis auteur dans des festivals de polar. C'est assez physique aussi, vous savez. Il y avait des connexions comme ça, une connivence souterraine. Voilà. Mais surtout, au départ... comme beaucoup d'entre nous, hein, au 19e, nos aïeux étaient des paysans. Et je me suis senti très vite assez proche de lui, dans la connaissance que j'en ai eue au départ, parce que j'étais pas du Tarn ni de la Haute-Garonne, puisque c'est là que ça se joue, hein, son destin, mais j'étais du Cambrésis, là-haut, avec vers 1870, des arrière-grands-parents. Et je vous dis bien des arrière-grands-parents qui sont partis des plaines du Cambrésis où ils étaient métayers paysans comme mon personnage pour aller à la mine dans le Valenciennois, dans le Cambrésis, dans le Douaisis, pardon. J'avais en moi lui quelque part, dans mes gènes il était là, le géant en moi, je pouvais le ressentir. Voilà, il y avait une communauté comme ça, un peu biologique, quoi. Je pouvais m'autoriser dès lors de parler en son nom. Voilà, ce que j'essaie de faire, c'est comme quand dans les derniers jours d'un homme, j'ai parlé de la cause ouvrière dans le nord de la France, etc., parce que je viens de là. Je n'en viendrai pas, je ne m'autoriserai pas cette liberté, je n'aurai pas stoupé. Voilà, il faut quand même parler de ce qu'on peut ressentir profondément. Pas forcément ce qu'on connaît, parce que vous savez que le roman noir, c'est le thème qui traverse le roman noir, c'est la question ultime, métaphysique, celle de la mort. S'il fallait mourir pour parler de la mort, on serait bien emmerdé. Donc on peut quand même parler de certaines... Non, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut parler, on peut avoir la liberté de l'auteur de... Et puis c'est un chemin très personnel, et un chemin à risque, mais on peut se le tenter. Mais là, c'était très important qu'on ait profondé... Moi, mes ancêtres, en même temps que Jean-Pierre Mazas, ils étaient au champ. C'est important. Quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, j'ai dit, je parle de moi, là. Je ne suis pas 2m20, je parle de ma famille, voilà. Et en plus, un cabossé, comme nous tous, ma famille est remplie de cabossés, donc de toute façon, ce n'est pas compliqué, à ce moment-là.
Ceci dit, je dirais presque que c'est votre projet d'écriture et votre œuvre que l'on suit depuis des années et des années, de parler justement... C'est pour ça que j'ai employé le mot marge et de ces gens cabossés. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement, et je trouve que ça va en écho avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait qu'il y a totalement, tu t'empares de ce projet, tu t'empares de parler, d'aller faire des recherches, tu montres, tu vas là et tout. Et puis, il faut combler des vides. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et il y a tout de suite l'auteur de fiction qui arrive et qui nous raconte, et ça rentre dans ce thème, réhumanisé, c'est ce type qui a été une espèce de monstre, et ben toi, tu vas réussir quelque part à raconter sa vie, sa femme, la naissance de ses enfants, qui évidemment ne sont pas dans les journaux, et tu vas lui inventer des bouts de vie, et ce qui est remarquable, c'est que celles sont fictionnelles et c'est qu'elles sont plus vraies que vraies.
Je ne sais pas. En tout cas, quand j'écrivais le livre, il me semblait qu'elles étaient plus vraies que vraies. Depuis, les descendants de ce personnage sont venus à moi sur une séance de signature la semaine dernière à Mazamet. Les arrière-arrière-petits-neveux sont venus à moi. Ils n'avaient pas lu le bouquin, ils l'ont lu depuis. Ils m'ont écrit, ouf, ils ont aimé. Mais de toute façon, j'avais la certitude d'être dans le respect de cet homme et c'est ce qui comptait pour moi. En revanche, plus vrai que vrai, non. Parce que depuis, beaucoup d'informations me sont remontées qui ne me contredisent pas, mais qui font que peut-être aurais-je écrit un livre différent, mais un livre moins romantique. Parce qu'à un moment donné, quelques zones d'ombre que j'ai éclairées à ma façon... c'est plus agréable que ce qui s'est passé réellement. Voilà. Donc, ce n'est pas plus vrai que vrai. Non, c'est mais la liberté que j'ai prise dans l'écriture est au plus près du réel. Voilà. Mais ce n'est pas la vérité. Et c'est le propre du roman. C'est une réinvention. Et même quand j'écris des livres au plus proche de moi... quasi autobiographique, je vous invite à lire « La vie n'est pas une punition » ou « À trop courber les chines », des choses comme ça. Même si ce que je raconte est proche de moi, c'est une réinvention. Sinon, il n'y aurait pas de roman. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi, disons-le, un drôle d'objet littéraire, parce que je pars certes d'une personnalité légendaire, parce qu'elle est légendaire. Qui m'en a parlé tout à l'heure, c'est Jean-Pierre. Qui a le prénom de Jean-Pierre Mazas, qui est du Tarn, et qui m'a dit tout à l'heure, quand je passais à Montassu avec la conseillère, mon père me disait, tu seras grand comme Jean-Pierre. C'est pas vrai ? Voilà. Donc, c'est un personnage légendaire dont je savais très peu, dont il fallait que je reconstruise la vie, en sachant qu'il y aurait de toute façon des manques, et que ça serait un crève-cœur pour moi, parce que là, j'ai appris deux choses dont je suis très jaloux tout récemment et qui auraient certainement donné un peu plus de sel à mon roman, mais c'est comme ça. C'est le risque du roman, c'est le risque de l'écriture et c'est ça qui fait la littérature. Sinon, il n'y a pas de littérature.
Ça me donne l'occasion, réinvention. Je trouve que ça va très bien au personnage de Michel, parce que finalement, on a l'impression que tous les personnages qu'on croise depuis les trois romans, en fait, ils existent. Tu les as rencontrés, tu les as aimés. Il n'y en a pas beaucoup que tu as détestés, parce que empathique comme le personnage de Dew, mais tu les réinventes tout le temps. Et ton projet littéraire, c'est cette réinvention et ce fait de fictionner la vie pour montrer, encore une fois, cette boule de rage et d'empathie, tout à la fois, ces deux sentiments.
Oui, parce qu'en fait, oui, je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus quand j'écris, finalement, au bout de trois romans, ce sont les personnages, donc les gens à la base. Alors, effectivement, certains sont directement inspirés de gens que je connais, mais avec donc mon regard ou mon ressenti. D'autres sont totalement inventés. Et ouais, je crois que oui, ce qui m'intéresse le plus, c'est les gens. Enfin, on disait les gens de peu ou les vrais gens, enfin, ce qu'on veut. Mais, et j'aime, finalement, dans la fiction, j'aime faire vivre ces gens-là et parfois leur donner un destin, pas forcément hors du commun, mais un destin que j'estime qu'ils méritent, donc à la mesure de ce que j'estime qu'il mérite. Et ouais, en fait, les gens... ouais, c'est vraiment le cœur. Parce que finalement, quand j'écris... Enfin, si je peux me permettre de dire comment... Juste quand j'écris, il se trouve que j'entends des... Alors, ça fait un peu Bernadette Soubirous du Sud-Est.
Jeanne d'Arc.
J'entends
aussi.
Des voix. Ouais. Mais vraiment, j'entends
ça
des voix.
Ça ne se voit pas du tout, Jeanne d'Arc.
Ça ne se voit pas. Hein.
Ouais, non.
Non, ça va pas. Mais c'est ça. C'est que je suis dans une espèce de demi-sommeil le matin ou dans une insomnie et les personnages me parlent. Mais ils me parlent vraiment. J'entends. Et chacun a une voix différente. Et quand j'écris un dialogue ou une conversation, je ne mets jamais les. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les dit-il, remarqua-t-elle, etc. Parce que je pense que chaque personne est identifiable à sa façon de parler. Je pense, moi, c'est ça, c'est au niveau de l'ouïe et de l'auditif. Et j'aime, quand j'écoute les gens, mine de rien, c'est qu'ensuite, je c'est de retranscrire ça, quoi. Chacun d'entre nous a un timbre de voix, a un accent, a une tonalité, a une musicalité, ou pas d'ailleurs, a un certain registre de langage, a des tics de langage, et tout ce qui fait notre individualité, finalement. Et c'est ça que j'aime finalement retranscrire dans les bouquins. Donc ces gens-là, c'est vrai que parfois, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais alors, ils existent vraiment ?» Et je ne sais plus, je crois que c'était... Enfin, qui m'avait dit, donc, le garagiste, là, donc, il est vraiment syrien. Alors, je disais, oui, enfin, dans mon livre, il y a un garagiste syrien, mais en vrai, enfin, peut-être dans le monde, il y a un garagiste syrien, mais pas à Nice. Mais bon, c'est pas grave. C'est apparemment, il était, voilà. Et dans le premier, il a été suffisamment crédible ou véridique, ou voilà, pour sembler. Voilà. Mais du coup, je fictionne. Bien sûr, je fictionne, parce que sinon, ça serait un documentaire qui pourrait être intéressant, mais ce n'est pas ça. Donc, effectivement, je pars de tous ces éléments de réalité. Et puis après, je fais un peu ce que je veux, parce qu'après tout, je suis maître du monde quand j'écris, et j'entends bien le rester, au moins pendant que j'écris.
Alors, maître du monde, mais malgré tout, avec un respect infini, parce qu'un livre qui se passe en Corse... Ça peut être quand même très casse-gueule, ça peut être très caricatural. Et il me semble, je connais un peu la Corse, et puis on a discuté avec pas mal de gens de cette insularité, il n'y a aucune caricature. C'est-à-dire que toi qui as un pied à Nice, un pied en Corse, tu as quand même su écouter, tu as quand même su avoir le respect. Et je pense que ça aussi, c'est le thème. Ouais. Et puis, on parlera le respect, parce que je trouve que c'est aussi très important dans l'œuvre de Pascal. C'est l'idée de respecter le territoire, hein, de les gens qui y habitent, et pouvoir fictionner avec. Ouais. Ça, c'est quand même une trilogie assez... une trinité, peut-être,
ouais.
même.
Oui, pour Dieu, c'est une trinité.
Pour Dieu, c'est une trinité.
Et, oui,
c'est
oui.
Ça.
Et d'ailleurs, en y repensant pendant que tu parlais, y compris dans Après les chiens, si je parle des migrants, c'est pas juste pour faire un sujet de fiction. Enfin, je veux dire, j'en ai parlé, je pense, avec le plus de respect possible, le respect dû à chacun d'entre eux et à cette situation collective absolument terrible. Et effectivement, la Corse, ouais, voilà, je dois vous avouer que c'était. J'ai écrit ce bouquin parce que j'en avais besoin, je pense, mais surtout j'avais quand même une grosse angoisse, quoi. Je me suis dit, putain, si je dis un demi-cliché, je ne voulais pas dire un demi-cliché ou aller sur les sentiers battus de ce qu'on peut dire sur la Corse, le peuple corse, les femmes corses, les hommes corses, bref, le saucisson d'âne qui n'existe pas, tout ça, je ne voulais pas. Et. Apparemment, j'ai réussi parce que je suis partie. Je n'ai pas parlé de la Corse, j'ai parlé de la Corse vue par ce personnage-là, avec toutes ses imperfections, avec tous ses travers, et elle-même avec sa grille de lecture complètement faussée par des années d'absence. Donc, ce n'est pas la carte postale, ce n'est pas la Corse touristique, ce n'est pas la Corse de Prosper Mérimée, qui est quand même un truc... qui a un peu porté préjudice à cette île, quand même, avec les personnages de Matteo Falcone ou de Colomba, quoi, qui ont imprimé dans l'esprit des continentaux ce que c'était que des Corses. C'était quand même la première représentation, même si Prosper Mérimée n'avait jamais mis les pieds en Corse avant d'écrire Matteo Falcone. Donc, bon, bref. C'est un peu le douanier Rousseau de la littérature corse. Donc voilà, donc j'ai essayé donc de ne pas, voilà, de pas aller sur des sentiers battus, de sortir un peu. Et apparemment, d'après les retours que j'ai sur l'île, ça va, ça se passe bien.
Tu peux y retourner.
Je peux y retourner. Oui. J'ai donc un copain qui m'a dit non, mais toi tu cherches les ennuis quand même en écrivant un polar qui se passe en Corse. Ça va.
Le respect, voilà. Moi, je voudrais que... Non,
simplement, t'as une villa en Corse?
Non.
Bon, ça va, là.
Non, mais j'ai encore des racines.
Pascal, je trouve que ce mot de respect, c'est très important dans ce roman comme dans les précédents. Et il y a aussi l'idée de ce territoire. Lavore, Montastruc, donc ce personnage de Jean-Pierre Mazas, c'était le géant de Montastruc, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vu ses 2,20 m et vu son problème génétique, il est devenu un colosse et un lutteur célèbre. Pour ensuite avoir une certaine déchéance. Mais c'est ancré dans une époque, entré dans des lieux. Et ça, il y a eu un respect très important et très méticuleux de l'époque et du lieu, et des lieux, du territoire.
Ben oui, là on est obligé d'une, on est contraint même presque en tant qu'auteur à une certaine exigence scientifique presque. Hein, je veux dire, on peut pas. Non, mais le premier respect, c'est par rapport au personnage. C'est ce que je disais tout à l'heure quand sa descendance est venue me voir. Ce que je redoutais le plus, c'est que j'ai trahi l'image qu'ils en avaient gardée, même si c'est une image forcément déformée, lointaine. Et je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dans mes livres, il y a des humains, parce que je crois être un peu humain et je ne les aborde pas avec condescendance, même souffrance. Je vois des humains qui ont leur lot de vicissitudes, de folie, de qualité. Je les prends pas. J'ai horreur dans le roman noir. Alors, dans le roman noir, c'est moins présent puisque les gens sont plus élégants. Mais sur cette planète qu'on appelle le polar, j'ai horreur de ce qui est souvent mis en œuvre, c'est-à-dire un certain manichéisme. Voilà. Mais je veux jeter la pierre à personne, mais où que l'on soit, les gens ne peuvent pas s'aborder comme cela. Il n'y a jamais quelqu'un qui est pleinement détestable, ni pleinement bon. C'est beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, le roman noir, moi, je crois plutôt en un roman qui comporte toutes les nuances de gris, plutôt que noir et blanc. J'ai horreur de cette approche dans le genre. Et je ne l'ai jamais pratiqué, je ne l'ai jamais traduit dans mes histoires, parce que je pense que c'est un engagement spirituel et intellectuel et philosophique. Quand on écrit du roman noir, c'est pas innocent. On ne va pas là pour raconter des exceptions, des personnages qui seraient qui seraient tranchés. Ça n'existe pas. Dans la littérature, il y a forcément des gens tourmentés, des gens complexes. Voilà. C'est forcément une complexité à laquelle on est confronté dans le roman noir. Et donc voilà, la première chose, c'est de s'interroger sur ce qu'est l'autre. Si vous avez en face de vous un abruti, posez-vous la question de pourquoi. C'est la racine du mal. C'est un tueur sur la route de James Ellroy. Il se met dans la peau du tueur, pas pour nous faire compatir, parce que c'est un salopard, mais quand même pour s'interroger là-dessus, sur l'origine du mal, n'est-ce pas ? Et ainsi de suite. Donc, derrière des gens qui tirent sur le chat du voisin, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a un roman noir qui va vous décrire le gars qui va tirer sur le chat du voisin. Donc, c'est un vilain, puisqu'il tue le chat du voisin. Mais tout le monde ne tire pas sur le chat du voisin. Alors, c'est qu'il y a un problème. Interrogeons-nous. Donc, il y a un roman noir qui va se suffire à raconter ça. Moi, ça ne me va pas. Donc voilà, le premier respect, c'est le respect qu'on doit avoir à tout humain. Pourquoi il souffre autant, ce gars-là ? Pourquoi il est aussi con, quoi ? Non, mais disons-le. Donc voilà, c'est ça. Alors après, l'autre respect dont tu parles, c'est effectivement la rigueur scientifique, historique, mais qui est le minima de tout auteur. Moi, j'ai écrit un livre qui se passe dans le monde du rugby. J'ai passé 2 ans, et je n'avais jamais pratiqué le rugby, hein. Imprégné dans ce monde-là, parce que je me disais, la pire des choses qui pourraient m'arriver après, c'est qu'un rugbyman vienne me voir en me disant, vous n'y connaissez rien. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Mais voilà, c'est le pire que l'on redoute. Donc à chaque fois, effectivement, dans la méthode, dans l'écriture, le respect. Et le premier, je dirais, des respects, c'est de parler quelque part de ce qui nous est le plus proche, même si c'est qu'à un moment donné. C'est plus que du respect. C'est une démarche sincère, de artistique. Voilà.
Le mot de la fin, parce qu'on a largement dépassé, et je crois qu'on pourrait encore passer une demi-heure avec Michel et Pascal à se régaler de les entendre, mais bon, on va pratiquement arriver à 1 heure, donc on va quand même clôturer, même si c'est la dernière table ronde. Vous avez remarqué, on n'a pas parlé vraiment des histoires, on a parlé des thèmes, c'est fait exprès. Voilà. Le mot engagement, Michel, c'est, tu ne peux pas ne pas conclure sur ce mot engagement.
Et oui, oui. Alors, du coup, ouais, l'engagement. Et ce que dit Pascal est vrai, hein, sur toutes les nuances de gris, là, les 50 shades of grey de la nature humaine. Oui, mais parfois... Pas 50. Mais parfois, moi, il y en a, c'est, pour moi, c'est des vrais méchants, quoi. Enfin, c'est des chez moi, hein, en région PACA, par exemple, du côté de Nice, je peux vous citer des vrais méchants. mais bon, effectivement, c'est de savoir pourquoi ils sont si méchants. Après, en étant adulte, il leur est arrivé un truc quand ils étaient enfants, c'est pas possible. Oui, l'engagement, en fait, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si c'est l'engagement ou si c'est le fait de ne pas pouvoir rester indifférent aux choses qui se passent, aux situations qui se déroulent sous nos yeux. Moi, je vis dans une ville qui est quand même très paradoxale, quoi, qui est une ville extrêmement belle, qui est décrite comme une ville extrêmement riche, Nice, donc, et dans laquelle 21% de la population vit sous le seuil de pauvreté, quand c'est 14% au niveau national, enfin en moyenne nationale. Mais ça, on n'en parle pas. Alors, l'engagement, c'est de dire, ben, ça existe aussi, et ça n'est pas normal. Et pour moi, c'est ça. Et finalement, je suis arrivée à l'écriture assez tard. Hein, j'avais 48 ans lorsqu'est sorti mon premier roman. Donc, ce que j'ai fait dans ma vie avant, c'était ça. Et finalement, ça se traduit dans ce que j'ai écrit. C'est finalement la façon dont je vis et dont je réagis. Et la façon de ne pas pouvoir être indifférente et de ne pas, comment dire, de ne pas accepter, c'est la phrase de Lucie Aubrac, hein, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Alors après, c'est chacun en fonction de nos moyens de ne pas accepter et de réagir. Là, il se trouve qu'en écrivant des romans, bah, j'arrive à exprimer ce qui, pour moi, est inacceptable. Et j'arrive à me dire, oui, c'est cet engagement-là, et de dire, je ne veux pas fermer les yeux, ou faire comme si ça n'existe pas, c'est déjà prendre position. Et en général, c'est prendre position contre les faibles et du côté du manche, enfin être du côté du manche, même sans rien dire. Et ça, pour moi, c'est difficilement, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Et finalement, il y a aussi quelque chose, on parlait de l'humain, et pour moi, il y a un truc qui est très humain, enfin pour moi, qui réhumanise les choses, c'est la désobéissance. On parlait de Cédric Héroux. Si Cédric n'avait pas désobéi, il aurait été beaucoup moins humain. Et c'est pour rester humain qu'il a désobéi aux lois totalement iniques qui nous empêchaient de tendre la main et d'aider quelqu'un. Et je trouve que effectivement, j'ai un personnage qui est un peu électron libre, et c'est surtout, je pense, qui est quand même dans la désobéissance à plein de choses, à plein de règles, y compris des règles sociales, des normes sociales qu'elle refuse ou qu'elle balaye d'un revers de main. Et je pense que c'est ça qui nous rend plus humains. Quand on désobéit à des choses qui sont iniques, on va même pas parler du procès du Nuremberg ou de... Voilà, mais si je peux conjuguer engagement et désobéissance et le traduire dans des polars, ben, ça me va bien.
Ce que j'aimerais poser justement, ce terme désobéir, tout d'un coup, ça me fait penser que au XIXe siècle, Jean-Pierre Mazas, dans sa condition, dans sa terre, lui, il a été obligé de subir finalement. Il n'a pas eu l'occasion de désobéir. C'est ce qui a conditionné une partie de sa vie. Je me trompe ou non?
Bah, disons que la question ne pouvait pas se poser. Hein. Je dirais, il suivait son destin, mais au sens plein. Il avait. Je crois que c'est quelqu'un dont on vous lirait le bouquin, mais en sous-texte, il y a quand même l'histoire d'un mec dont on a abusé. Il était grand, il s'est mis à la disponibilité de la communauté. Je pense que beaucoup de gens ont abusé de sa bonté, de sa bêtise un petit peu, sans doute. Il a jamais désobéi. Mais après, moi, j'en sais tellement peu sur sa vie. Moi, je me suis permis un livre, mais c'est un fantasme d'auteur que j'ai accompli, là, de raconter l'histoire d'une personne qui avait existé, dont il restait presque rien. Et donc, moi, je me suis autorisé beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il a... Après, il a su dire non à un moment donné. C'est-à-dire que pour sans dévoiler l'action, ce qui va suffisamment vous intriguer pour que vous vous précipitiez sur le livre, mais il a grandi très vite et très fort pour ensuite rapetisser très vite et très fort. C'est-à-dire qu'il est monté à 2,20 m et à un moment donné, une chose a fait qu'il est tombé à 1m86. Et là, il devient un phénomène pour la science, une curiosité pour la science, sur un hasard. Hein. C'est Édouard Brissot qui est le médecin qui va inspirer le médecin à la recherche du temps perdu de Proust, qui le croise sur les Invalides en 1894 et qui voit là la confirmation de toutes ses interrogations médicales. Et lorsqu'il y a l'analyse médicale, la dernière chose dont parle Jean-Pierre Mazas, il n'en parle pas, c'est même pas la dernière, il n'y en aura pas, c'est de sa gloire de lutteur ancienne. C'est extraordinaire. Et là, il dit non. Parce qu'on veut le faire mettre tout nu, comme une bête. Parce que l'époque, on mesure les crânes, on mesure tout. Vous savez, ça va mener à des choses que vous connaissez qui ne sont pas très agréables. Et lui ne veut pas. On veut le faire mettre tout nu, parce que quitte à le mesurer, on va tout mesurer. Non, il ne veut pas. Donc il dit non. Il dit non, c'est vrai. Non, c'est très intéressant. Parce que, merde, c'est un homme, d'abord.
C'est un homme. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc je vous invite. Vous avez de la chance, il fait beau.
Ouais, ça y est, ça nous est revenu.
Ça nous est revenu. On va les sécher.
Merci à vous.
Merci.
Super, merci.